Je ne suis pas quelqu'un qui promet dans le vide. Si je dis quelque chose, quand je m'engage, moi, depuis 58 ans, tout ce que je me suis engagé à faire, je l'ai fait.
Oui, parce que moi, ce que je voulais vous faire remarquer, surtout, c'était que votre programme était assez orienté sur le social et l'aide.
Oui.
En fait. Si on prend, par exemple, le premier point, les minima sociaux doivent être relevés, et vous dites le RMI doit être accordé avec une condition d'âge.
Ben, moi, je trouve qu'on doit l'avoir à 25 ans. Pourquoi cette date butoir de 25 ans? Ils sortent de l'école, ils n'ont pas d'expérience. Quand ils vont chercher un emploi, la première chose qu'on leur demande, est-ce que vous avez d'expérience? C'est une hérésie, c'est un non-sens. Quelqu'un qui sort de l'école ne peut pas avoir une expérience. Donc d'entrée, déjà, on leur fout la porte au nez. Déjà, d'entrée. Et jusqu'à 25 ans, on va les traîner comme ça, s'il n'y a pas de marché d'emploi ouvert. Moi, j'ai dans mes proches, au niveau du conseil d'administration d'Ensemble 2007, un ingénieur. Il a fait Bac plus 5 et il est au RMI. Comment ça se fait qu'un ingénieur soit au RMI? Il a étudié, il a investi du temps, il a investi de l'argent, ses parents ont investi de l'argent pour qu'il ait un niveau assez élevé et il n'arrive pas à trouver un travail. Il se retrouve encore plus bas que quelqu'un qui est un ouvrier spécialisé. Mais c'est inadmissible. Moi, je ne le supporte pas. Personnellement, ça me révolte.
Justement, pour en rester aux jeunes qui n'ont pas, à qui on demande une expérience qui ne l'ont pas, vous parlez de la création de petits métiers accessibles.
Bien sûr. Je reviens d'Italie, là. Il y a 3 semaines, j'étais en Italie. En Italie, vous allez à une pompe essence, vous avez un pompiste. Ici, vous vous débrouillez, même si vous êtes en costume, vous en foutez partout à côté, vous en mettez dessus, mais personne ne bouge. Mais déjà ça, multiplié par le nombre de stations-service. Il y a possibilité de créer des emplois. C'est déjà ça. Mais il y en a plein. Moi, je peux créer au minimum 20 000 emplois tout de suite. 20 000.
Vous êtes pour une révision aussi des 35 heures.
Oui, parce qu'il y a des catégories sociales sur lesquelles 35 heures, c'est ingérable. Le routier, les routiers, les gens dans l'hôtellerie. Il y a plein de petits métiers. Enfin, c'est pas des petits métiers. On va pas faire des catégories non plus dans les métiers. Il y a des métiers, les 35 heures, ce n'est pas gérable, 35 heures. Moi, j'ai travaillé dans la restauration, je sais qu'on ne compte pas les heures. Ou alors, à ce moment-là, le patron, quand tout est fini, c'est lui qui se tape la plonge. À ce moment-là, c'est pas peine qu'il les employé. En plus, les TVA, ils sont chargés, surchargés de taxes. 19,60, on est un des seuls pays en Europe à avoir une TVA qui nous étrangle, qui étrangle tous les commerces, qui étrangle toutes les sociétés.
On va y revenir sur la TVA. Je voulais revenir sur un point parce que je vous ai coupé. Vous parliez tout à l'heure de création de 20 000 emplois.
Oui.
Comment allez-vous faire et dans quelles conditions?
Je vais peut-être pas m'exprimer là-dessus tout de suite, je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il y a possibilité de créer des petits métiers. Ça, c'est pas 20 000 emplois, d'accord. Mais ça donne la possibilité à des jeunes. Tout le monde ne peut pas être ingénieur, notaire, médecin ou autre. Il y a des gens qui ont des capacités manuelles. Et on pousse tout le monde à faire des études à bac plus. Pour arriver à quoi? Un échec scolaire. Alors qu'il y a des gens qui ont la capacité technique et manuelle de faire autre chose. Parce qu'on a besoin de carrossiers, on a besoin de maçons, on a besoin de tous ces corps de métier. Donc pourquoi est-ce qu'on veut absolument faire des cadres supérieurs? Je veux dire, si on fait que des cadres supérieurs, on va manger quoi? Du béton et du papier. Il faut, une société, c'est fait de toutes catégories sociales confondues.
Alors, ça rejoint un peu ce qui se dit à l'heure qu'il est, c'est retour vers des petits métiers,
mais
vers
c'est
les métiers
retour,
du bâtiment.
C'est revenir à des choses qui sont plus naturelles et pas comme ça partir le tout fric, le tout diplômé, ça a plus sens. On s'éloigne de la vie. La politique est en train de nous amener, nous mener par le nez en disant vous allez être machin, bidule, les trucs. Alors qu'il est si simple de vivre correctement, même avec un salaire correct, mais pas étranglé comme on le fait actuellement. La société nous étrangle. Les banques nous étranglent, le système nous étrangle, le coût du travail nous étrangle, c'est cher. L'argent, c'est cher. Et depuis le passage de l'euro, mais il y a plus de 6 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça veut dire qu'il y a presque 10% de la population qui sont en dessous du seuil. Et j'en fais partie. Je suis invalide et je touche que 600 et quelques euros par mois. J'ai interpellé M. Chirac pour savoir s'il aurait la possibilité de vivre avec cette somme-là par mois. J'attends sa réponse avec impatience.
D'accord. Et vous parlez justement de d'aide donc pour créer des emplois. Et tout à l'heure vous parliez de la TVA. Donc vous allez faire des heureux parce que dans votre programme vous pensez à une modification de la TVA et à
bien sûr. 1960,
la revaloriser c'est... suivant les métiers en fait.
1960 c'est énorme. Je veux dire, une société moyenne de 20-30 personnes. Ça représente en termes d'argent une somme énorme. Surtout sur l'achat des matières premières, sur la revente et la récupération, mais au bout de combien de temps? Donc tout cet argent, il est gelé. C'est de la sortie de caisse, mais il est gelé après, avant de récupérer la TVA. Cet argent-là, ils ne l'ont pas en caisse. Ça permet de créer au moins un emploi partiel. Déjà, minimum, pour une société moyenne, hein, de 10-20 personnes. Et au sein, par exemple, dans l'hôtellerie, la restauration, ça peut créer effectivement un emploi. Soit en partiel, soit en complet. Les gens, ils cavalent comme des malades, parce qu'ils n'arrivent pas à faire tout seul. Moi, quand je vois les restaurants, les gens ne connaissent pas la restauration. On appelle ça des coups de feu. À midi, il y a un coup de feu. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, on passe de 5-10 personnes à 30-40 personnes. Et bien, il faut cavaler de midi jusqu'à 1h30, 2h, ben c'est le coup de feu. Et après, il n'y a plus rien, il n'y a plus de boulot. Si, il y a la vaisselle, il y a des trucs comme ça, la remise en place. Et là, on est étranglé à 1960 sur ce truc-là. Et on n'a pas assez de personnel pour arriver à servir correctement en temps normal. Donc, les gens râlent, ils ne sont pas contents. 1960 à l'addition, ben ça fait lourd à la fin. Et comme les gens, il y a des gens qui mangent tous les jours au restaurant parce qu'ils n'ont pas le temps de retourner chez eux, et ben à la fin du mois, ça fait une sacrée somme. Ça fait une sacrée somme.
Mais en fait, là, vous parlez surtout de la restauration, mais en fait, de la TVA.
Je parle de la restauration, mais je peux prendre toutes les catégories sociales. Si on épluche tout comme une crevette, on va voir que 1960, ça étrangle tous les petits commerces, que ce soit les artisans, que ce soit les petits commerçants, que ce soit les métiers de bouche ou d'autres métiers qui ont des petites structures. Ils peuvent pas créer de l'emploi alors qu'ils ont besoin de gens.
Mais cette TVA, quand même, elle sert à financer les caisses de l'État.
Je dis pas qu'on enlève la TVA. Je dis qu'il faut baisser le taux de la TVA. 1960, on étrangle tout le monde. Dans les pays européens, on est la TVA, une des TVA les plus chères d'Europe.
Si on baisse la TVA, moins de rentrée d'argent dans les caisses de l'État, donc...
Oui, c'est un faux problème. À savoir que si on paye moins de TVA, on a la possibilité de gagner un repas. Parce que les 1960, à la fin du mois, on l'a payé tout le mois. Si on en la baisse un petit peu, eh ben on peut se payer le 31e jour, par exemple.
Donc ça serait une relance, ça permettrait une relance de l'économie.
C'est tout en toute logique. En toute logique. En toute logique.
Oui, on ne déshabillerait pas Paul pour habiller Jacques, ça serait...
Non, parce que ça c'est un principe qu'effectivement les politiques connaissent très très bien. On prend dans une poche pour remettre dans l'autre. Franchement, non. C'est pas la bonne politique et c'est pas la façon de voir la vie comme elle doit être et comme elle devrait être.
Tout à l'heure, vous parliez donc de la population française et notamment 6 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a énormément de gens qui ont de plus en plus de problèmes financiers et autres. Et vous prenez par exemple une accessibilité plus facile à la CMU pour les gens qui ont des difficultés financières.
Ben oui, parce que moi par exemple avec mon revenu d'invalide, je touche 10 euros de trop. Enfin, je touchais 10 euros de trop pour avoir droit à la CMU. J'ai eu la première année où la CMU existait, j'ai eu droit à la CMU. Et puis après, je suis sorti des cadres parce que je touchais 10 ou 15 euros de trop. Et moi, quand je vais hospitalisé, parce que j'ai quand même des pathologies assez graves, quand je me vais à l'hôpital, je dois me payer les indemnités, forfaitaires de l'hôpital, et j'ai pas droit à la CMU. Alors là, il y a un problème. Les gens qui ont besoin, qui sont invalides, devrait au moins avoir la CMU, plus d'autres catégories sociales. Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui ont droit à la CMU. Moi, je m'occupe, j'ai des activités, je suis invalide, ce n'est pas de mon fait, c'est une chose... C'est mon histoire, mais c'est pas normal que les invalides n'aient pas droit à la CMU systématiquement. Je vais pas dire des ghettos, parce que ça serait vraiment les dévaloriser, parce qu'il n'y a pas de ghettos. Les ghettos, c'est les gens qui les ont dans la tête, avant tout. Mais il y a une chose est sûre, c'est que ces gens-là, s'ils n'ont pas de possibilité de travailler, ils se retrouvent entre eux. Et quand il y a une misère humaine, comme c'est le cas dans, souvent, et malheureusement trop souvent dans les banlieues, eh ben on en arrive à des conflits, on arrive à des situations conflictuelles. Peu importe le genre, mais on en arrive à des situations conflictuelles. On l'a vu récemment, on va fêter, ou on a fêté l'anniversaire de... Est-ce qu'on peut fêter vraiment l'anniversaire de ces méfaits? Parce que là, c'est plus
est-ce
des méfaits.
Est-ce que vous les, justement, vous les avez compris? Vous voulez...
Non, je les ai pressentis avant. C'est-à-dire qu'en 81, moi, j'avais interpellé M. Michel Rocard, donc vous voyez que la politique, ce n'est pas tout à fait nouveau pour moi. En 81, j'avais dit, il faut aider les associations qui sont constituées dans les banlieues, et partout, dans les villages, dans les villes, pour les aider à canaliser ces agressions, c'est-à-dire occuper les gens à autre chose que penser à leurs propres conditions et leurs misères. Si on leur fait comprendre qu'il y a des gens plus malheureux qu'eux, parce qu'il y a aussi le cas, il y a des gens plus malheureux qu'eux, s'ils se penchent un petit peu sur ces cas-là, ben ils voient déjà la misère un petit peu moins noire. S'ils s'impliquent un petit peu, ben déjà c'est moins agressif comme truc.
Qu'est-ce qui vous fait dire que ça a changé par rapport à il y a 25 ans? Est-ce que maintenant vous promèneriez à Sarcelles comme il y a 25 ans?
Ah non, certainement pas. Non. Je serais
Vous avez été acteur social, vous avez été
oui, tout à fait.
Dans le quartier, donc vous êtes connu.
J'étais connu. Mais est-ce que je serais reconnu? J'en sais rien. Mais dans certains quartiers, c'est des zones de non-droit. Même pour des gens qui travaillaient avec moi à l'époque, qui vivent encore sur le secteur, il y a certains quartiers qui sont des zones de non-droit, même pour eux.
Vous pensez que pour les acteurs sociaux, il y a des zones qui sont considérées comme zones de non-droit?
Ah oui.
De nos jours?
Oui, bien sûr. Ah oui. Pour toute catégorie sociale et pour tout le monde. C'est-à-dire maintenant, c'est des territoires qui sont des no man's land. Et attention, de 81 à 2006, il s'est passé du temps. Les gens ont pris des habitudes, des mauvaises habitudes. Donc, je dis bien attention.
Pour vous, le problème n'est pas forcément un problème de politique de droite depuis que le gouvernement de droite est installé. Ça date depuis bien plus longtemps.
C'était larvé déjà dans les années 80. Ça a pris un essor différent parce que ces misères-là ont fait souche. À savoir que d'une génération à l'autre génération, ça, c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude, c'est que les gens se sont trouvés dans des conditions d'avoir du pouvoir. Du pouvoir. Et à partir de là, ils ne connaissent plus ni père, ni mère, ni personne. Ils se reconnaissent à peine entre frères, entre guillemets. Frères, quand je ne dis pas frères, c'est pas dans au sein de la famille, mais dans les fratries internes à ces banlieues-là, ils se battent entre eux, souvent. Et ils ne reconnaissent pas ni père ni mère. Moi, je vois un quartier Souptard, ici, à Toulouse, il y a des gamins de 8, 12 ans qui agressent des personnes âgées. Déjà, le pli est mal, c'est mal barré. Et je trouve ça inadmissible. Comment ils regardent, quel regard ils ont, ces enfants, sur leurs parents, leurs propres parents? Mais c'est aberrant. Et on en arrive chez des sauvages.
Et quelles mesures, vous pourriez apporter à ça, alors?
Mais c'est pas la répression à tout craint qui va changer la face des choses. C'est déjà une compréhension. Il y a pas mal de mesures, mais je vais pas dire. C'est presque au cas par cas, parce que chaque cas est un cas. Donc il y a une situation familiale. Il faut connaître la situation familiale. Il faut discuter avec ces gens-là. Mais est-ce que les parents qui sont désengagés par rapport à ça n'ont pas une part de responsabilité par rapport à ça aussi? Je pense.
Vous seriez pour la suppression des droits style allocation familiale aux parents?
C'est malheureusement, je veux pas extrémiser, mais est-ce que c'est pas une des solutions? Parce que finalement, ces gens-là, ils n'ont pas de moyens de vivre. Si on leur enlève ça, ça va être difficile pour eux. On va les rendre encore plus miséreux que ce qu'ils sont. Mais ceci dit, il faut quand même trouver une pierre d'achoppement pour toucher ces gens-là et les mettre face à leurs responsabilités. Je dis pas que c'est la solution. Ça pourrait être une solution dissuasive, parce que dès l'instant où on touche à leur bistec, ben peut-être qu'ils vont peut-être commencer à voir les choses différemment. Mais je dis pas que c'est la solution. Mais c'est pas idiot en soi, parce que c'est la seule possibilité de les toucher peut-être.
Nous allons alléger un peu le sujet et en faisant une petite coupure musicale, nous allons écouter le dernier disque d'Anaïs.
Jean-Bernard Tournier.
Oui, donc nous sommes toujours avec Monsieur Robert Beau, qui est candidat au présidentiel 2007 sur une liste indépendante, on va dire, qui vous n'avez pas de couleur particulière en fait, ni vert, ni rouge, ni bleu, ni jaune, ni.
J'ai envie de défendre la vie. Est-ce que ça porte une étiquette? Je sais pas.
Vert, donc c'est les choux pour les garçons, et rose pour les filles. on va revenir donc à votre programme et on va parler un peu plus de politique. Oui, on va dire plus un mot qui est très à la mode, mondialiste. Donc dans votre programme, vous parlez beaucoup de commerce équitable et de développement équitable, et surtout
durable,
d'écologie
durable.
Et durable. Sous quelle forme vous voulez mettre en place cela et qu'est-ce que vous entendez par ces termes en fait?
Alors déjà, développement durable, c'est effectivement assurer la pérennisation de la civilisation et de l'espèce, parce que au rythme où on va, à force de vouloir manger tout le territoire, ce côté vorace de l'homme qui domine toutes les espèces animales, végétales, minérales, je sais pas où ça va, mais ça va pas dans le bon sens, ça c'est une évidence. Donc pour une pérennisation, il faut quand même déjà avoir des priorités, c'est-à-dire de faire attention à une denrée qui va devenir très rare dans l'avenir, c'est l'eau. L'eau potable, ça c'est une évidence. De pas tout mettre les œufs dans le même panier et arrêter de faire le tout pétrole, parce que les Chinois arrivent sur le marché, s'ils veulent tous une bagnole, ça veut dire 3 milliards de voitures en plus. Donc au niveau pollution, ça fait déjà beaucoup de bruit. Et actuellement, la couche d'ozone telle qu'elle est, je sais pas si elle va supporter 3 milliards de bagnoles en plus. Donc il faut arrêter de tout penser, toujours tout pétrole. Dans les années 70, il y a eu les Verts, effectivement, qui était un mouvement émergent, qui était soi-disant utopiste, mais maintenant on se rend compte de l'importance de ce mot et de la portée que ça peut avoir au quotidien des gens.
Mais donc, l'écologie, quand même, est présente au gouvernement, elle est présente dans
les
débats.
Oui, mais dans un placard. Non, mais dans un placard. Mais bon, on met plein de gens au placard.
Je vois pas l'intérêt. Il y a quand même pas mal de mesures qui ont été prises.
Oui, des mesurettes. Ça donne bonne conscience aux politiques, et ça c'est un peu fâcheux, c'est qu'effectivement on a fait à un certain moment soit un secrétariat d'État à l'écologie, soit un ministère. Mais on ne lui a pas donné les moyens, ni le pouvoir, de travailler dans le sens où il voulait travailler. Et avec les dissensions des Verts internes, ça a fait que ça tournait en autre boudin. Donc moi, c'est pour ça que depuis très longtemps, je suis dans la politique sans être dans la politique. Je ne me veux aucune étiquette. Parce qu'une étiquette, on voit où ça amène. Et je trouve que les politiques, c'est une chose qui est devenue obsolète. Ils ne sont plus à côté des préoccupations des gens. Ils font fausse route. Ils s'occupent de leur petit ego, de leur petit mandat. Et puis, c'est tout.
Vous trouvez qu'il y a un décalage entre l'homme de la rue et le politique?
Ah oui, ils ne se rendent pas compte du tout, ils ne savent pas le prix d'une baguette. La plupart des politiques ne savent pas ni prendre le métro, ni prendre le bus. On les amène là où on doit les amener, et puis basta. Ils n'ont pas le sens des réalités. Et il faudrait peut-être qu'ils mettent un peu les pieds dans la réalité, parce que la réalité, nous, on la vit au quotidien. Moi, je la vis au quotidien. Et c'est grave. C'est grave. Comment est-ce que des gens qui sont censés nous gouverner n'ont pas le sens des réalités du quotidien des Français, des gens qui doivent être gouvernés par eux?
Si on prend le cas de M. Besancenot, par exemple, il se dit proche de, des travailleurs, donc
il a une réalité du terrain, lui. Mais ce n'est pas le cas de tous les candidats avérés ou non. Oui, lui effectivement. C'est une des personnes qui a répondu à l'interview. Il a l'honnêteté de son programme, de ses idées et de ce qu'il est. Et c'est très bien. Lui, il a le sens des réalités. Il sait ce que c'est que d'acheter son pain. Il sait ce que c'est. Il a une gamine. Il sait ce que c'est de courir de son boulot, aller chercher la gamine à l'école avant que ça ferme. Je le sais.
Si on prend Madame Royal, elle a des enfants aussi, donc à ce moment-là, elle aussi, elle doit savoir ce que c'est que d'avoir
des enfants. Oui, mais elle est sur une autre sphère, elle est sur une autre sphère. Moi, quand j'ai entendu récemment qu'une fois qu'elle était intronisée par le Parti Socialiste, elle a été réclamée aux gens s'ils n'avaient pas par hasard quelques idées pour l'aider à établir son programme. C'est comme si on allait à la pêche en asticot. Il y a un petit problème quelque part, hein.
Est-ce que c'est pas aussi demander justement, parce que c'est, ça fait partie de son programme, demander aux gens de participer un peu plus, est-ce que c'est pas aussi un peu dangereux de donner trop de pouvoir au peuple, on va dire?
Le pouvoir doit être au peuple, et pas à des gens qui sont loin des réalités du peuple. Qu'est-ce que c'est que le vote? Qu'est-ce que c'est que la démocratie si on... C'est nous.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, si c'est le peuple qui dirige en faisant
non,
des commissions
pas, autres... Je ne dis pas que c'est le peuple qui doit diriger. C'est le peuple qui doit choisir entre tous les candidats s'ils sont intéressés par telle personne plutôt qu'une autre. Et ça, c'est le vox populi. Mais seulement, il n'y a pas de démocratie en France. Alors donc, effectivement, tout est pipé déjà d'entrée.
Pour vous, les cartes sont jetées
Non, moi je ne considère pas que les cartes sont jetées. Parce que de manière, il y a des tas de gens qui ne se retrouvent plus dans la politique et qui ne prendront pas leur carte d'électeur à cause de ça. Et des tas de gens qui ont leur carte d'électeur n'iront pas voter parce qu'ils sont écœurés des salmigondis et des fausses promesses et qu'on les promène comme ça, de gauche à droite, etc., etc. Ces gens-là, ils sont perdus pour tout le monde et pour tous les hommes politiques, quels qu'ils soient. Et c'est très bien. Parce qu'au moins, ils vont comprendre ce que c'est qu'un raz-de-marée. C'est-à-dire que quand les gens, il y aura une abstention majeure ou des votes blancs, eh bien, ils comprendront. Il faudra qu'ils tirent des leçons, quand même, de leur façon de travailler.
Et pour en revenir donc à votre programme à vous, donc vous voulez, comme on disait tout à l'heure, un commerce équitable, un développement durable dans tout ce qui est
commerce équitable, c'est toujours pareil. En France, il y a le monde, les agriculteurs, que ce soit les petits agriculteurs ou les grands agriculteurs, on leur paye même pas le prix du boulot. On leur achète pour le vendre en supermarché ou en grande surface, quand ils ont un marché, plus cher, deux fois plus cher que ce qu'ils ont été achetés. Où est la marge? C'est pas dans la poche de l'agriculteur. C'est dans les intermédiaires. Et quand il y a deux, trois intermédiaires, ben chacun se gave au passage. Donc ce qui serait normal, c'est qu'il soit payé déjà au juste prix et qu'il soit rémunéré directement de la grosse surface, de la grande surface ou du petit étal, directement à la personne qui a travaillé. Et ça, je trouve ça légitime. Et on arriverait à une qualité, parce que moi, quand je mange des légumes en France, eh ben je n'ai pas l'impression de manger des légumes.
Mais justement, parce qu'il y a une forte demande, donc les agriculteurs sont obligés de produire énormément. Un petit agriculteur ne peut plus
oui,
vivre.
Mais, en fait, mais c'est... quand je parlais du prix de l'argent, le poids de la TVA, quand on voit que malheureusement dans les pays limitrophes à la France, on produit beaucoup plus pour une manœuvre moins chère. Donc on est inondé par des matières premières, des légumes, des fruits, etc., qui viennent de l'étranger, voire d'exportation, et ils sont encore bénéficiaires. Mais les gens en France, quand ils vendent à perte. C'est-à-dire que quand ils vendent, je veux dire, à la limite, ils n'auraient pas travaillé, ça leur serait revenu moins cher.
Donc quand on vous écoute, on pourrait se dire, ben, Monsieur Beau n'est pas pour l'Europe, en fait.
Mais c'est non mais on a pris trop vite le problème. L'Europe a été à la fois trop vite et pas assez. Si je me souviens bien, dans les années 48, si ma mémoire est bonne, peut-être que je fais fausse route, mais il y a eu le traité de Rome, qui était les prémices de l'Europe. À ce moment-là, on pouvait mettre en route une harmonisation, mais chacun est parti à U et à Dia, et finalement on en arrive à une totale anarchie. Chaque pays a ses propres règles, a ses propres... Alors on a mis des lois sur des lois, des lois sur des lois, des oppositions par rapport aux lois, etc. Et maintenant, il n'y a plus de possibilité d'harmonisation. Chaque fois qu'on veut prendre des décisions au Conseil de l'Europe, c'est une bagarre, c'est des débats en plus finir sur des points de détail, parce qu'on en est arrivé à un selmigondi d'absurdité que ça devient ingérable. Et donc, une harmonisation de l'Europe, il aurait fallu y penser avant en construisant ensemble. Si c'est un exemple. Cinq maçons décident de construire une maison ensemble. Chacun fait son mur. Mais si les murs sont à côté l'un l'autre, ben ça fera pas une maison. Ça fera pas une maison, ça fera cinq murs. La réponse est là.
Oui. Donc vous êtes... Vous pour une refonte en fait de toute la structure européenne.
Déjà, quand j'ai eu le texte.
Pas forcément pour un élargissement.
Déjà, il faut d'abord faire le ménage un peu chez nous. Il faut faire déjà remettre les finances en état, relancer l'emploi. Il y a beaucoup de choses à faire en France. L'écologie, savoir si on continue au tout pétrole absolument et à tout craint. Et après, on pourra parler éventuellement de construire à plusieurs. Mais si on construit sur des hérésies comme ça, mais on va dans le mur, on est déjà dans le mur.
Est-ce que c'est pas une sorte de protectionnisme que vous êtes en train de...
Je suis pas pour un protectionnisme. Je veux pas faire un système à l'américaine qui est honteux. C'est pas dans le sens de l'hégémonie que il faut se diriger, mais de faire quelque chose avec d'autres, mais sur des choses solides. Et pas des trucs qui ressemblent plus à rien. Cette TVA qui nous étrangle, c'est déjà une des clés du problème. Le tout pétrole, le tout nucléaire, on arrête ça. Il faut les éoliennes, ça existe depuis pas mal de temps. Les photosynthèses, le soleil, il a toujours brillé depuis que le monde est monde, il a toujours brillé sur la Terre. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas? On a les techniques pour ça. C'est pas compliqué, on mettrait une petite photocellule sur chaque feu rouge. Combien y a de feux rouges en France? Ça ferait une sacrée économie d'énergie. Ne serait-ce que ça. Mais non, on veut toujours faire toujours dans le même sens. On continue à faire dans le même sens. Et les feux rouges, même si on met des ronds-points, on remet toujours des feux rouges. Mais on arrête.
Dernièrement, il y avait un petit village de l'Aveyron qui a fait une demande pour avoir son éclairage public solaire, justement.
Bien sûr.
Et ça lui a été refusé par le conseil général.
Voilà.
Donc vous trouvez ça tout à fait illogique, anormal, et ce petit village est obligé de se raccorder au réseau EDF.
Ben oui, c'est tout à fait logique. On a la possibilité technique et de liberté aussi, la liberté des gens. On nous impose, la France veut tout diriger, on dirige tout. On contrôle tout, on veut tout contrôler, c'est comme ça qu'on a tué l'emploi. Alors, on arrête. On donne l'autorisation à ce petit village d'Aveyron. Moi, j'ai vécu dans l'Aveyron. Il y a des petits villages qui sont complètement cloisonnés et qui ont du mal à joindre les deux bouts avec les budgets municipaux, parce qu'ils ont beaucoup de terres pour très peu d'habitants. Ben, s'ils ont la possibilité de faire un peu d'économie, pourquoi est-ce qu'on leur interdit de faire ces économies-là? Au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de... Quelle loi nous impose ça? C'est une absurdité.
Oui, mais de toute façon, on est rentré dans un processus où la France ne peut pas revenir en arrière, et elle est obligée de suivre plus ou moins ce qui se passe autour d'elle, et donc on en revient à la mondialisation et tout ce qui est pris au niveau décisionnaire est mondial, en fait.
Oui, mais les moutons de Panurge, ça existe. Hein. Il y en a un qui a sauté et puis tous les autres ont suivi. Alors effectivement, si on a cette petite politique-là, je veux dire, c'est une politique de fou. C'est déraisonnable. C'est contre la logique de la vie. C'est pas parce que les gens font des conneries qu'il faut continuer à persister là-dedans. S'il y a possibilité de rétablir progressivement et voire très rapidement Eh ben, on va dans le mur, c'est ce que je dis.
Imaginons que la future présidente de la République française décide de dire non, stop, on arrête. Vous pensez qu'on serait suivi par d'autres pays?
Ah oui, bien sûr, parce qu'il faut voir où est leur intérêt. Il faut pas penser qu'à nous, la terre nous appartient pas. On est de passage. Il faut rester humble par rapport à ça. On a de nos enfants. Nos enfants, ils suivent. Et les enfants de nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser? On est coupable et responsable par rapport à ces enfants-là. Donc il faut prévoir, alors laisser quelque chose de vivable. Mais on n'en prend pas le chemin. Et certainement pas avec une Europe de 21 ou de 26 comme on le fait actuellement, comme on voudrait la construire maintenant. Certainement pas. On ne prend pas le bon chemin.
Quand on parle donc politique nationale et internationale, on pense aussi sécurité. Au niveau sécurité internationale, politique internationale, quel est votre programme?
C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des peuples en guerre. Actuellement, je ne sais pas combien il y a de pays en guerre, mais je crois que ça tourne autour de 30 pays qui sont en ébullition, on ne va pas dire en guerre. C'est pas obligatoirement des guerres armées, mais c'est des guerres larvées, c'est des guerres internes, guerrières, interethniques, peu importe le nom. Mais ça existait de tout temps. La France n'a plus d'armée avec le service civil obligatoire. On a monté un service d'engagés volontaires. Mais il faut quand même quand on voit ce qui s'est passé au Kosovo, quand ce qui s'est passé au Tchad et dans d'autres pays où la France est partie protéger en force, pas d'intervention. Mais là, en tant qu'observateur, c'est ce style de défense, ce style de possibilité-là qu'il faut exploiter. Après, quand on parle aussi, parce que je pense que c'est ce que tu voulais me faire dire plus ou moins, c'est le terrorisme. Ça, effectivement, c'est un danger qui peut frapper n'importe où, n'importe quand. Et ça, c'est une création diabolique, ça. Mais il n'y a pas de réponse actuellement par rapport à ça. Si ce n'est d'être très très vigilant. Là, le travail de la DST en France a fait un travail énorme. C'est eux qui ont découvert ce qui devait se passer le 11 septembre aux États-Unis. Eux, ils étaient au courant pratiquement un an avant. Ils n'ont pas été très vigilants par rapport à ça, les États. L'Amérique n'a pas été très très attentif à ça. Il se sentait tout puissant et au-dessus de tout. Mais la preuve en est que ça n'a pas été le cas. Quoi.
Mais assurer la sécurité en fait d'un pays coûte cher. Et est-ce que ça ne va pas aller à l'encontre de certaines mesures sociales? Est-ce qu'il faudra pas faire un choix à un moment donné?
Ben, ça dépend. C'est-à-dire que si on va vers le tout répressif et si on met effectivement un militaire derrière chaque délinquant, effectivement, ça coûte très cher. Mais si on est raisonnable et qu'on fait ça de manière intelligente et je vais pas dire économique, parce qu'il faut se donner les moyens de nous défendre ou de se défendre. Mais on le fait pas en envoyant un flot de policiers, de CRS à tout craint et à tout va, à n'importe quel moment et pour n'importe quoi. Hein, quand on voit ce qui s'est passé avec les sapeurs-pompiers qui demandent légitimement que leur métier de dangerosité soit reconnu, ils le crient depuis 2 ans, ils le demandent depuis plus longtemps que ça, et on n'a même pas, les politiques n'ont même pas la conscience du travail que font les pompiers, qui sont là pour leur sauver la vie, leur sauver leur bien. Mais je trouve ça complètement... Ça rejoint ce que je disais en disant que les politiques sont loin des réalités. Je les vois très mal, moi, ces gens-là, avec un casque, avec un cuir, et d'aller courir sur les échelles ou avec un tuyau qui a une sacrée pression. Hein. Eh ben, j'aurais les voir dans les flammes, là. On verrait s'ils font le beau, ces gens-là. Ça, c'est un minimum. C'est inadmissible. C'est des choses comme ça qui me rebellent, qui me révoltent. C'est vraiment réduire les gens pour... On ne considère pas les gens.
Donc vous allez vous présenter au premier tour. Si vous n'êtes pas au second tour, éventuellement, Ah, mais vers quelle tendance vous...
Ah, ma vie,
si vous
ma
deviez
vie, ma vie
appeler à voter, si vous avez une consigne de vote à donner, vous donneriez laquelle?
Ben, celui qui ressemble le plus près de mes idées, qui soit à la fois vert, qui soit un peu socialiste, beaucoup intermédialiste et surtout énormément écologiste.
Vous avez un nom?
Non. Pour l'instant, je ne connais pas assez bien les programmes des uns et des autres pour me faire une opinion. Je défends le mien déjà. Et c'est déjà pas mal de travail.
Les gens peuvent vous rencontrer lors de débats. Comment on peut faire connaissance déjà avec vous, avec votre programme, en dehors du site internet dont je vous laisse donner l'adresse?
C'est http://robert-baud.free.fr. Ça c'est mon site, mais il y a possibilité, moi je fais tous les mercredis et vendredis des rencontres, il y a trois endroits sur Toulouse, il y a, je peux citer le Chambala dans lequel je fais une rencontre mercredi, sur l'environnement et l'écologie notamment. Vendredi prochain, je suis, je crois, au Bistrot Voyageur, place Arnaud Bernard, Et tout se trouve sur mon site. Il y a toutes les rencontres débats et je peux rencontrer les gens et je vais aussi sur les marchés, place du Capitole, donner l'information de mon site. Et s'ils veulent avoir plus de renseignements, moi je suis à leur disposition.
Et les gens qui sont hors de, on va dire, de la commune, de la ville, est-ce qu'il est prévu des déplacements?
C'est-à-dire que financièrement, moi, je suis en train de leur relancer
un peu la décision. Comment ça se passe pour un candidat comme vous, par exemple, qui est financièrement, comment il arrive à joindre les deux bouts et à faire sa campagne?
Ben justement, moi j'ai lancé une campagne d'adhésion sur mon site. Les gens y adhèrent ou y adhèrent pas. Ils peuvent aussi bien me donner un coup de main moral en cliquant ou participer. Puis on donne une carte d'adhérent comme toute association constituée. Moi, la mienne est constituée depuis le mois de août 2006. Et ils peuvent participer bénévolement. Moi, je vais aussi faire des soirées, des animations et des soirées musicales, enfin avec des DJs ou avec des petits groupes du coin, etc., pour faire connaître à la fois et puis avoir un petit peu d'argent éventuellement pour ma campagne, parce que en communication ça coûte pas mal d'argent quand même.
Voilà, et il n'existe pas une aide de la part de l'État ou des institutions politiques?
C'est quand on a les 500 signatures.
Voilà, alors, donc l'autre question, c'est celle-là. Des ténors comme, on va dire, de certains politiques, comme par exemple M. Le Pen, n'ont pas encore leurs 500 signatures. Vous, est-ce que vous arrivez à les obtenir ou est-ce que c'est très difficile? Ou vous les avez déjà peut-être?
Disons, pour l'instant, je ne sais pas. Et en plus, c'est pas ma priorité absolue. Ma priorité, c'est de faire passer des idées que je défends, dont j'ai la conviction. Je considère que j'ai raison, et la plupart des gens avec qui je discute au quotidien, tous les jours, me disent « tu as raison, vas-y », ils m'encouragent. Mais les 500 signatures, je trouve ça antidémocratique, à savoir que c'est pas les maires qui devraient se décider, c'est les gens. Mais ceci dit, jouons le jeu. S'il y a des maires qui m'écoutent et à qui se retrouvent dans mes idées, ils peuvent me joindre très facilement, soit par mon site, soit par mail, soit par téléphone. Ils seront très bien accueillis et on pourra discuter et je peux aller les voir, ça, aucun problème.
Est-ce que vous êtes prêt, vous, par exemple, à intégrer une équipe gouvernementale si on vous le propose?
Bien sûr. Mais j'ai une expérience de la vie quand même qui font que j'ai eu quand même je vais pas dire du pouvoir, mais disons que j'ai eu des postes de décisionnaire. Je sais gérer une équipe. En tant que DRH, moi, avant de quitter Paris, on m'avait fait un pont d'or. Un chasseur de tête m'avait fait un pont d'or. Il avait vu que j'avais un parcours très atypique mais solide. Il était prêt à me faire un pont d'or en tant que DRH d'une très très grosse société. Donc c'est-à-dire que je sais manager. Je manage au quotidien. Et j'ai les capacités aussi bien qu'un autre candidat à gouverner.
En deux minutes... Si vous avez le micro, vous adressez à des électeurs éventuels, en deux minutes, vous leur dites quoi?
Je dis qu'il faut relever les manches et qu'il faudra prendre des décisions rapidement à savoir le bon choix, la bonne vie, ce qu'on a envie de vivre, il faut prendre cette décision très rapidement. C'est pas obligatoirement dans le bulletin de vote que ça se passe, c'est au quotidien avec vos voisins, avec la communication avec les autres. Essayez de vous rapprocher, essayez d'avoir le sens de l'amitié, voire de l'amour envers les autres. Et déjà, ça serait déjà un énorme progrès. Après, la coloration politique importe peu.
Un peu plus.
Je dis aux femmes, par contre, elles portent le poids du monde parce qu'elles ont la possibilité de procréer. Si vous voulez protéger vos enfants, protégez-vous vous avant. Déjà, je parle pas protection, c'est au sens de la vie. C'est vous qui êtes décisionnaire de demain. Faites le bon choix.
Justement, petite parenthèse, vous parlez des femmes, il y en a de plus en plus en politique, pour vous c'est une bonne chose donc?
Bien sûr, mais la politique n'appartient pas à un sexe en particulier. Mais si les gens à capacité égale peuvent très bien gouverner, bien sûr. Bien sûr.
Que ce soit dans un ministère ou voire
à la présidentielle,
oui, femme peut très bien que...
Oui, encore faut-il avoir les capacités pour ça, bien sûr.
D'accord. Mais écoutez, monsieur Beau, je vous remercie beaucoup et d'avoir accepté notre invitation.
À très bientôt.
Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Je m'adresse particulièrement à un auditeur de Cugnot, dont je sais que c'est l'anniversaire, je lui souhaite un bon anniversaire. Je remercie Laurent pour la technique.
Merci.
Je souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos questions. La semaine prochaine, nous recevons monsieur... Jean-Luc Moudenc, et vous pouvez laisser vos questions sur le site de la radio.
Bonsoir.
Bonsoir.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer. Mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance. C'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. J'allais rue des solitaires à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait l'opprimé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé.